بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le dimanche, le 9 du mois de Al-Qa'da, de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 26 avril 2026. Donc, nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour continuer ensemble notre lecture dans cette risale de l'imam Ibn al-Qayyim à un de ses frères. On s'était arrêté sur ce hadith dans lequel Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu 'ayni fis-salat » Donc, il a dit: ce hadith a été jugé hassan par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Il a dit « Hubbiba ilayya min dunyakum » Allah lui a fait, le Nabi Aslam dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait aimer de ce bas monde, il lui a fait aimer de ce bas monde, et il a cité en premier « An-nisa'u » les femmes. Et en deuxième, il a cité « At-tib » le parfum. Et ensuite, il a dit « Wa ju'ilat qurratu 'ayni fi s-salat » Et la prunelle de ses yeux, si on peut le traduire comme ça, se trouve dans la salat, yani la chose qu'il chérisse le plus. Donc l'imam Al-Qayyim dit qu'il a mentionné deux choses de dunya. Il a mentionné deux éléments de dunya. Et bien évidemment, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait aimer, a fait aimer les femmes pour les hommes, et les hommes pour les femmes, et le parfum et les biens, tout ça c'est mentionné dans le Coran. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. Donc Allah nous a fait aimer ces choses-là. Naturellement, comme Allah a créé l'homme, il aime ces choses-là. Il aime dunya, il aime l'argent, il aime le flous. C'est pour ça, Omar radiallahu anhu, il ne disait pas « Oh Allah, fais-moi détester l'argent ». Il disait « Oh Allah, aide-moi à utiliser l'argent comme t'aimes ». Et Allah nous a fait aimer ces choses-là. Ce qui est demandé, c'est de les utiliser comme Allah aime. Donc il dit qu'il a cité deux choses de dunya, qui sont le parfum et les femmes. Et ensuite il a dit « وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاتِ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاتِ » Donc dans le verset que j'ai mentionné, dans son sens approximatif, Allah dit: aux yeux des hommes est embelli l'amour des choses convoitées, le penchant pour les femmes et l'attachement porté aux enfants, aux trésors chargés d'or et d'argent amassés, aux chevaux de race, au bétail et aux cultures des champs. Telles sont les jouissances de ce bas monde, et ce n'est qu'auprès d'Allah qu'est heureux le retour. Ensuite, l'imam Al-Qayyim dit « Wa qurratu al-ayni fawqa al-mahabba » Yani, quand il a exprimé son amour pour salat, il n'a pas dit « Allah m'a fait aimer la salat ». Il a dit « Wa ju'ilat qurratu ayni » C'est pour ça, yani, ça c'est comme la prunelle des yeux. C'est un degré au-dessus de l'amour, du simple amour. Yani, ça veut dire que c'est un amour encore plus fort et plus grand. Car la personne peut aimer une chose, mais elle n'arrive pas au degré de cette prunelle de ses yeux. Mais ceci n'est valable que pour les choses que la personne aime énormément. C'est-à-dire les choses qui sont aimées pour elles-mêmes. الذي يحب لذاته. Et ceci n'est valable que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui doit être aimé pour lui-même, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toute autre chose qu'on aime, on doit l'aimer pour Allah et en Allah. Mais le seul qui est aimé pour Allah, pour lui-même, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Même le prophète alayhi salam, notre amour pour le prophète alayhi salam, c'est pas parce qu'il s'appelle Muhammad, fils de Abdullah, de la tribu de Bani Hashim, et comment il est physiquement, la beauté qui lui a été donnée. Non. L'amour pour le Nabi alayhi salam, c'est un amour en Allah subhanahu wa ta'ala. On l'aime pour Allah. On l'aime parce que Allah l'a choisi comme messager. On l'aime parce que Allah l'aime énormément. On l'aime parce qu'il est la cause du bien dans lequel on est aujourd'hui. Et nous demandons à Allah de nous accorder une bonne fin et de mourir dans la religion de l'islam. Cette religion, on l'a connue par qui ? Par Nabi alayhi salatu wassalam. Donc on l'aime pour tout ça et encore plus. C'est pour ça que Nabi alayhi salam un jour a dit à Omar radiallahu anhu, il parlait avec Omar, et Omar il lui a dit, ô messager d'Allah, je t'aime plus que toute autre chose sauf ma personne. Nabi alayhi salam lui a dit, Laysa l'an ya Omar. Il n'était pas arrivé au degré le plus élevé. Et Omar radiallahu anhu a réfléchi. Et il s'est rappelé, effectivement, que Nabi alayhi salam, si jamais Allah il le sauve de l'enfer, c'est par sa cause. Si jamais Allah lui accorde le paradis, c'est par la cause de Nabi alayhi salam. C'est la cause de tout bien pour nous tous. Allah fait de lui la cause de tout bien pour nous tous. Car c'est par son intermédiaire qu'on a connu cette religion. C'est lui le messager d'Allah sur lequel cette religion a été révélée. Et il lui a dit, ô messager d'Allah, maintenant je t'aime plus que toute autre chose, même ma personne. Il lui a dit, al-ana ya Omar. C'est pour ça, on atteint le degré de l'amour complet et parfait, que quand Nabi alayhi salam, son amour devient plus grand que notre amour pour nos parents, pour nos enfants et pour tous les hommes, y compris pour notre personne. Et celui qui arrive à ce degré, et même avant ce degré, et je vous laisse imaginer comment il va être dans le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça, vous pouvez le vérifier avec des gens qui aiment des déviants et des pervers, des chanteurs, des acteurs. Regardez comment ils deviennent attachés à leur suivi, à s'habiller comme eux, à marcher comme eux, à parler comme eux. Ou là, des joueurs de foot. Et ça, c'est valable par rapport à des gens qui sont loin de la vérité. Alors, que dire quand ton amour est sincère et véridique pour le meilleur homme qu'Allah a créé ? Pour la personne qu'Allah aime le plus, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, les gens, ils peuvent avoir ce genre d'amour et de suivi pour des gens qui n'ont pas de qualité réelle. Alors que dire de l'homme qui atteint le degré de la perfection humaine, al-kamal al-bashari, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu le suis dans toute chose, c'est un bien pour toi. On ne parle pas de la religion, car ça c'est obligatoire. Mais même dans le dunya. Le suivre dans le dunya, c'est un bien pour toi. Là, ce n'est pas obligatoire. L'anna, ce que le Nabi faisait, est de deux catégories. Ibadat ou adat. Des adorations et des habitudes. Ce n'est pas obligatoire de suivre le Nabi dans les habitudes. Là, celui qui le suit dans ses habitudes, avec l'intention d'être dans son suivi, et comme signe d'amour, il sera récompensé sur ce suivi, dans les habitudes. Amma, dans les adorations, Allah n'accepte que l'adoration dans laquelle tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Et ce qui permet, parmi les choses qui permettent d'augmenter cet amour, c'est d'étudier sa biographie, alayhi salatu wassalam, et d'apprendre à le connaître davantage, à connaître le Nabi, alayhi salatu wassalam, à connaître l'amour qu'il avait pour sa communauté, pour ses compagnons et pour ses frères qu'il n'a pas vus et qu'il n'a pas rencontrés, tous ceux qui viendront après lui et qui ont cru en lui. Et de lire dans le Coran les versets qui décrivent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et son attachement à la guider des gens. Allah azza wa jalla lui dit dans le Coran, فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Peut-être tu vas te donner la mort s'ils refusent d'être des croyants. Allah, dans ce sens-là, comme s'il le blâmait. Il n'arrive pas à ce degré. Allez, salatu wassalam. Et il ne s'est jamais vengé pour sa propre personne. Sauf quand les limites d'Allah sont transgressées. Regardez tout ce que les gens de Taif lui ont fait subir. C'est le pire des jours qu'il a connu dans sa vie. Alayhi salatu salam. Comme il a dit à notre mère Aïcha, quand elle l'a interrogé. Quel est le jour le plus difficile que tu as connu dans la da'wah? Il lui a dit le jour de Taif. Quand il est parti, après tout ce qu'il a subi des Mekwa, il est parti vers la ville de Taif, en espérant qu'ils acceptent de lui la vérité. Ou au moins qu'ils le protègent pour transmettre la religion d'Allah. Et ils l'ont humilié. Ils ont demandé aux enfants et aux fous de le frapper et de le jeter avec des pierres. Et après tout ça, sur le chemin de retour, Allah lui a envoyé Jibril alayhi salam avec l'ange des montagnes, responsable des montagnes. Il lui a dit, je suis sous tes ordres. Allah m'a mis sous tes ordres. Si tu me donnes l'ordre, je les écrase tous entre ces deux montagnes. Il a dit non. En espérant qu'Allah fasse sortir de leur descendance des gens qui adorent Allah sans rien lui associer. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est des monothéistes. Même avant, pendant le vivant de Nabi alayhi salam, ils sont entrés en islam. Malgré qu'ils étaient parmi les ennemis les plus grands ennemis du prophète, alayhi salatu wassalam. Hadawo. Et ça, c'est un exemple de plusieurs dans la vie de Nabi, alayhi salatu wassalam. Et ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim a justifié qu'il n'y a que Allah qui doit être aimé pour lui-même. Car aimer quelqu'un avec Allah, c'est une forme d'associationnisme. Et là, on parle de l'amour d'adoration. L'amour accompagné, al-hub, alladhi huwa ibada. On ne parle pas de l'amour que tu as pour tes parents, ou là pour ton épouse, ou là pour tes enfants, ou là pour les choses que tu aimes de dunya. Ici, on parle de l'amour qui est une adoration. Et l'amour qui est une adoration, c'est l'amour qui est accompagné de vénération et de dévotion et d'obéissance absolue et complète. Hada huwa hubb al-ibada. Donc, aimer quelqu'un comme t'aimes Allah, c'est shirk, car c'est une adoration qui est vouée à autre qu'Allah. Et ça, c'est un acte d'associationnisme majeur qui fait sortir de l'islam. Comme les mushrikin qui aimaient Allah, mais qui aimaient leurs idoles comme ils aiment Allah. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. Parmi les gens qui prennent, il y en a qui prennent des idoles qu'ils aiment comme ils aiment Allah. هذا هو الاسوسياتور المشرك. والذين امنوا اشد حبا لله. Contrairement aux croyants, leur amour est exclusif et sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. والحب لأجله توحيد Et aimer pour Allah, en Allah, c'est du monothéisme pur. C'est pour ça que l'associateur, il prend d'autres divinités avec Allah, qu'il aime comme il aime Allah. Yani qu'il leur voue un amour qui ne se doit qu'à Allah. C'est l'amour d'adoration. Car comme vous savez, il y a un amour qui est naturel. L'amour que tu as pour tes parents. Même le kafir, il aime ses parents. S'il est encore sur sa nature humaine saine. Lakin, s'il a été perverti, vous pouvez trouver des gens qui détestent leurs parents. Amma, quelqu'un qui est créé, ni comme Allah l'a créé, et s'il reste sur la nature humaine saine sur laquelle Allah l'a créé, il va aimer instinctivement ses parents, comme il aime naturellement ses enfants, et son épouse, et ainsi de suite. Ça, c'est un amour naturel, qui n'est pas sujet de blâme ni d'éloge. C'est pour ça que tu peux aimer ton père mécréant. Alors qu'il n'est pas autorisé d'aimer un kafir. Lakin, ça, c'est une exception, car c'est un amour que la personne ne contrôle pas. Et c'est un amour avec lequel la personne est créée. Allah nous a créés comme ça. On aime nos parents, on aime nos enfants. Si tu te maries avec une chrétienne ou avec une juive, chose qui est autorisée sous certaines conditions et qui n'est pas recommandée, car si tu te maries avec une muslima qui suit la sunna, vous allez galérer énormément dans l'éducation de vos enfants. Alors que dire de te marier avec une femme qui boit de l'alcool à la maison? Car si tu t'épouses une chrétienne, elle a le droit de boire de l'alcool à la maison. Elle a le droit de faire tout ce qui est autorisé dans sa religion, même falsifié. Elle a le droit d'avoir une statue, ou des kulchi. Lakin, Wallah, il y a des savants qui disent que ce jugement, personne ne peut dire que ce jugement a été abrogé. Car il reste valable jusqu'à la fin des temps. Mais ils disent que la sagesse est que quand les musulmans sont attachés à leur religion, le musulman qui se marie avec une chrétienne, elle vient dans la société de l'islam, facilement elle devient musulmane. Car les gens du livre sont très proches de la foi, ils sont croyants déjà, ils croient en une divinité, même si leur foi est corrompue et falsifiée. Lakin, ils ont déjà le principe de croire en un créateur, en une divinité. Ils ont ce principe. C'est pour ça que quand ils connaissent l'islam, ils deviennent facilement des musulmans, plus facilement qu'un athée. Et aussi, comme c'est ce qui s'est passé à l'époque des compagnons, combien de personnes est venues dans leur société, parmi les chrétiens et les juifs, et qui sont devenus musulmans facilement. Comme notre mère, Safiya. Safiya, l'épouse du prophète, à la base, c'est une femme juive. Elle est entrée en islam vers l'âge de 18 ans. Et elle a épousé le prophète, alayhi salatu wassalam. Lakin, aujourd'hui, si elle vient dans la société des musulmans, peut-être qu'elle va dire, comme a dit Cheikh l'Albani, que dans notre société, c'est mieux que chez vous. C'est pour ça, yani, ça c'est un point, en sachant qu'il y a aussi d'autres conditions pour que ce mariage soit valide. C'est pas seulement qu'elle soit parmi les gens du livre. Yani, une croyante. Il y a d'autres conditions. Donc je disais que cet amour naturel n'est pas sujet d'éloge ni de blâme. Et nous avons un amour qui est un amour d'adoration, c'est l'amour accompagné de vénération et de dévotion et de soumission et d'obéissance. Et ça, c'est cet amour, il ne se doit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah, il est le seul qu'on aime pour lui-même. Allah est aimé pour lui-même. Il est aimé pour sa bonté et sa générosité et son bienfaisance envers nous. Car toute ni'ma en nous, elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. وما بكم من نعمة فمن الله. Tout bienfait en nous, il provient d'Allah. C'est Allah qui nous l'a accordé. Sans Allah, tu ne pourras pas respirer. Sans Allah, tu ne pourras pas voir. Sans Allah, tu ne pourras pas bouger le petit doigt. Sans Allah, tu ne pourras pas manger. Sans Allah, tu ne pourras pas boire. Sans Allah, tu ne pourras pas dormir. Et ça, c'est les bienfaits de dunya. Et les plus grands bienfaits d'Allah sur nous, c'est les bienfaits religieux. Le bienfait de la foi. Le bienfait de la sérénité dans la foi. Le bienfait de la certitude dans la foi. Le bienfait de la science. Allah, il te fait aimer la science et il te fait aimer d'apprendre la religion. Ça, c'est les plus grands bienfaits. Car les bienfaits que j'ai cités avant, les bienfaits de dunya, ils sont donnés aux musulmans, ils sont donnés aux kafirs, ils sont donnés à l'humain, ils sont donnés aux djinns, ils sont donnés aux animaux. Allah, il les donne même pour les insectes ou kulchi. Lakin, par quoi Allah a distingué le mu'min, c'est les bienfaits religieux. Et c'est ces bienfaits qui vont perdurer dans ce bas-monde et dans l'au-delà. Lakin, malheureusement, même déjà l'imam Ibn al-Qayyim, dans ses livres, il parle de cette faiblesse dans la compréhension. Et ce manque de compréhension qu'ont beaucoup de gens qui ne considèrent comme un bienfait que les bienfaits mondains. Quand ils parlent des bienfaits, en général, ils parlent de l'argent, de la maison, de la voiture, des enfants. Ils ne pensent même pas, ça leur traverse même pas l'esprit, les bienfaits religieux, qui sont les bienfaits les plus élevés. Alhamdulillah, les gens, ils ne te jalousent pas par rapport à ces bienfaits. Ils te jalousent juste par rapport à dunya. Et ça me fait penser à une sagesse. À l'âge, les gens, ils ne te jalousent pas par rapport aux bienfaits religieux, ils te jalousent par rapport aux bienfaits mondains. Alors que l'écart entre les deux, il est plus grand que l'écart entre la terre et le ciel. Subhanallah, il y a une sagesse que les ulama disent, notamment l'imam Ibn al-Qayyim, « Anna ad-dunya, elle est petite ». La dunya, elle est petite. C'est pour ça, si t'as un commerce, par exemple, tu vends un certain produit, même si t'es en Algérie ou en Afrique, ou à Had qui vend la même chose, en Chine, tu sens que t'es en concurrence avec lui. Car dunya, elle est petite. Lakin, tu sens jamais que t'es en concurrence avec quelqu'un dans Qiyam al-Layl ou dans la lecture de l'Qur'an, car l'akhira, elle est large. Elle est vaste. L'akhira, elle est très très vaste. Ce que Allah accordera à un croyant dans le paradis, ça peut être plus grand que dunya en entier. Et 10 fois de dunya. Un seul croyant. Il voit tout ce que Allah lui a accordé, toute sa propriété. Il la voit et elle est de sa place. Alors que notre vue aujourd'hui, elle est limitée. Notre vue aujourd'hui, elle est limitée. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le dunya. C'est impossible. Avec la vue limitée qu'on a. Lakin fil akhirah, ceci deviendra possible. Nous demandons à Allah de nous accorder ce bienfait, cette ni'ma, qui est la plus grande des plus grandes ni'ma. Et qui est encore meilleur que le paradis, avec tout ce qu'il contient. C'est la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une vue réelle, comme il convient à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mushrik aime Allah et aime avec lui d'autres divinités, fausses divinités. Et le muwahhid aime Allah. Et aime Allah seulement. Et tout ce qu'il aime, il l'aime pour Allah. Il déteste ce que Allah déteste. Et tous ceux qu'il déteste, il les déteste en Allah. C'est pour ça, c'est l'anse la plus solide de la foi qu'il vient de mentionner ici. C'est le lien le plus fort qui te lie à Allah. Et c'est l'indicateur le plus véridique de ton niveau de foi. C'est d'aimer en Allah et détester en Allah. Tous ceux que tu aimes, tu les aimes en Allah. Et tous ceux que tu détestes, tu les détestes parce que Allah les déteste. Ça, c'est parmi les degrés les plus élevés de la foi. Il fait tout ce qu'il fait pour Allah. Il délaisse tout ce qu'il délaisse pour Allah. Yani, la plus grande force qui le fait bouger et la plus grande force motrice pour le croyant, ce qu'il fait bouger, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait tout ce qu'il fait pour Allah. Il délaisse tout ce qu'il délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il a dit « وَمَدَارُ الدِّينِ عَلَى هَذِهِ الْقَوَاعِدِ الْأَرْبَعِ » Et la religion, dans son intégralité, elle est autour de ces quatre règles. Elle tourne autour de ces quatre règles qu'il vient de mentionner. C'est-à-dire aimer et détester. Et ce qui en découle, aimer et détester, l'amour et la détestation, l'amour et la détestation en Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui en découle, yani faire et délaisser, donner et priver. Quand il donne pour Allah. Et quand il ne donne pas, c'est également pour Allah. Quand il fait, c'est pour Allah. Et quand il s'abstient, c'est également pour Allah subhanahu wa ta'ala. Yani quelqu'un, yani la seule chose qui le fait agir ou par laquelle il va s'abstenir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ اِسْتَكْمَلَ أَلْ يَكُونَ هَذَا كُلُّهُ لِلَّهِ اِسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ Et celui qui arrive à ce que toutes ces choses-là soient uniquement pour Allah, alors il aura atteint le degré de la foi complète. Le degré de la foi complète. Et le manquement au niveau de un de ces quatre points représentera un manquement dans sa foi. Une diminution de sa foi. Lakin, une diminution, comme vous savez, qui ne le fait pas sortir de l'islam. Qui ne le fait pas sortir de l'islam. Car dans la foi, mes frères, vous savez que nous avons un degré minimum qui valide notre foi. Dans la foi, nous avons un degré minimum qui valide notre foi. En dessous, il n'y a pas de foi. Il n'y a que de la mécréance. Et celui qui arrive à ce degré de la foi, qui consiste tout simplement en la foi, aux six piliers de la foi, celui qui arrive à ce degré, il aura validé sa foi. Après, il peut augmenter dans les degrés de la foi jusqu'à atteindre le degré de la foi obligatoire. C'est quoi le degré de la foi obligatoire? C'est de faire toutes les obligations et de s'éloigner de tous les interdits. Ça, c'est le degré de la foi obligatoire. Il peut dépasser encore ce degré jusqu'à arriver au degré complet de la foi recommandée. Ça, c'est le degré de la foi obligatoire. Celui qui rencontre Allah avec un degré de la foi obligatoire complet, Allah lui a garanti l'entrée au paradis direct. Il rencontre Allah, il fait toutes les obligations. Même s'il ne fait rien de surrogatoire, il fait toutes les obligations. Il s'éloigne de tous les interdits. Et bien évidemment, ça c'est théorique. Lakin, dans la pratique, ce n'est pas possible de faire toutes les obligations et de s'éloigner de tous les interdits sans avoir du surrogatoire. Car le surrogatoire, c'est ce qui permet de protéger les obligations. Lakin, si on suppose, c'est pour ça que le Nabi, quand cet homme lui a dit « Si je fais que ça et je me tiens à ça, est-ce que j'aurai le paradis ?» Il lui a dit « Naam ». Lakin, la question, c'est de venir avec toutes les obligations et de s'éloigner de tous les interdits. Ce degré, les hommes de science l'appellent le degré de la foi obligatoire complet. Après, il y a un degré supérieur qui est le degré de la foi complet recommandé. Recommandé, c'est faire les surrogatoires et s'éloigner de ce qui est détestable. ce qui n'est pas haram, lakin c'est détestable. Et après, il y a un degré encore supérieur à celui-là, qui n'a pas de limite. Et c'est de celui-là que l'imam Ibn al-Qayyim parle ici. Le degré où il n'y a d'attachement dans ton cœur qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas autre attache. Et ça, c'est le degré de Ibrahim alayhi salam, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Khalil, qu'est-ce que ça signifie qu'il est Khalil al-Rahman ? Il est arrivé à un degré dans l'amour d'Allah qu'il n'y a plus rien dans son cœur que Allah. Tout ce qu'il aime, il l'aime en Allah. Il aime son père en Allah. Et non pas seulement l'amour naturel. Il l'aime parce qu'Allah a ordonné d'aimer les parents. Et tout ce qu'il va faire, ça sera des adorations. Hada, c'est un degré encore plus élevé. Et donc, s'il y a une diminution par rapport au degré obligatoire, qu'est-ce qu'on dit par rapport à celui-là ? Celui qui va vérifier le degré minimum, mais qui n'a pas atteint le degré obligatoire. Quel est son jugement auprès d'Allah ? Est-ce que vous pouvez répondre ? تفضل اخي ما اسمك؟
عبد الجليل
تفضل اخي عبد الجليل
عبد الجليل سو لا فولونتي د الله
ما شاء الله اللهم بارك il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala si Allah il veut il lui pardonne si Allah il veut il le châtie proportionnellement à ses manquements et négligences parce que celui-là il aura délaissé quelques obligations ou il aura commis quelques interdits sans se repentir l'un à le repentir efface le péché. Lakin, il va rencontrer Allah avec un degré incomplet, ça veut dire forcément avec des obligations qui ont été délaissées ou des interdits qui ont été commis, ou les deux, sans repentir. Mais s'il se repent, le repentir efface le péché. Donc, Hada, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il rencontre Allah avec le degré de foi complet, obligatoire, celui-là, Allah lui a garanti l'entrée au paradis. Directement, sans châtiment. Lakin, on ne peut pas dire sans jugement. Alors, en général, le jugement, sans jugement, ça, c'est les degrés les plus élevés. Les degrés de ceux qui s'en remettent totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le degré de ceux qui ont une confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne choisit jamais pour lui-même que ce que Allah lui a choisi. Taïb. Est-ce qu'il est voulu par ça ? Il dit est-ce qu'il est voulu par tout ce qu'il a cité ici ? Il dit c'est de montrer Anna la chose qui rentre dans Qurrat al-Ayn, c'est pas seulement ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime à un degré très élevé. Donc, salat est la prunelle des yeux de ceux qui aiment Allah dans ce bas monde. Et c'est la chose qu'ils chérissent le plus, comme elle comporte munajat Allah Azza wa Jal, le fait de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala, et la dévotion et la concentration et l'apaisement de l'âme et tous ces délices qui découlent de la salat. Salat, c'est une ni'ma qu'Allah nous a prescrit. Allah, il nous prescrit une chose dans laquelle il y a notre bien. Car Allah, il ne tire aucun profit de nos adorations. Comme ça ne lui porte aucun préjudice, nos désobéissances et nos péchés. Ce sont que nos actes que nous trouverons dans notre livre et sur lesquels nous serons jugés. Lakin Allah aime l'adoration et déteste la désobéissance. Donc cette proximité, cette dévotion cette quiétude de l'âme, le croyant la trouve dans la salat, notamment quand il est dans la position de la prosternation, la position dans laquelle le serviteur est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Et regardez pour voir la valeur de ce sujoud. Le mouahid, si tu lui demandes à ce qu'il se prosterne devant toi et tu lui donnes un million d'euros, wallahi, il ne le fera pas. Le mouahid, qui a compris le tawhid, contre un million, contre la richesse de dunya, lakin, il se prosterne devant Allah. Ça te montre la valeur de cette adoration. Il met son front contre le sol, par terre, ou d'abord sur les tapis. Lakin, à l'époque du prophète, comme vous savez, dans la mosquée du prophète, il n'y avait pas de tapis. Et ce qui explique ça, Anna Nabi, quand il demandait à Bilal d'accomplir, de faire l'iqama, qu'est-ce qu'il disait à Bilal? Il disait, Ya Bilal, arihna bis salat. Il lui disait, oh Bilal, repose-nous avec la salat. Yani, la salat, c'est le repos de l'âme du prophète, alayhi salatu wasalam. Après la fatigue et les épreuves et les difficultés de dunya, le Nabi, alayhi salam, enfin, il va être devant son créateur, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Car quand tu rentres dans la salat et tu dis Allahu Akbar, tu es en face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et lui. C'est pour ça qu'ils disent, celui qui veut parler à Allah, il fait la salat. Et celui qui veut qu'Allah lui parle, il lit le Coran. Car le Coran, c'est la parole d'Allah. Alors, imaginez, un Nabi alayhi salam, il lève ses mains, il dit Allahu Akbar. Allah est plus grand que toute autre chose. Donc il délaisse tout derrière lui. Allahu Akbar. Naam? Donc il dit Allahu Akbar. C'est pour ça, Ibn al-Jawzi, rahimallah, il dit, il ne faut pas que tu sois un menteur dès le début de ta salat. Tu dis Allahu Akbar, mais en réalité, ce n'est pas Allahu Akbar. Yani, tu penses à autre chose. Si Allah vraiment est le plus grand, alors tu ne vas pas penser à autre que lui. Lakin, ça, c'est un combat que mène le croyant contre Shaitan et contre ses insufflations. Et c'est wasawis pendant la salat, afin de distraire le croyant, et pour qu'il ne soit pas concentré. Lakin, c'est quelque chose sur laquelle le croyant doit s'entraîner. Al-khushu' dans la salat, la concentration, de méditer ce qu'il dit. Quand tu lis le Fatiha, il ne faut pas que ce soit comme si c'est une cassette, ou là, tu prononces verset par verset, et tu médites sur la compréhension de chaque verset. Alhamdulillahi rabbil alamin. Parmi ce qui aide à avoir la concentration, c'est la lenteur. Ne pas lire le Fatiha. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman, Rahim. Comment tu vas méditer comme ça? Même si tu connais l'essence, tu ne pourras pas méditer. Yani d'abord, l'apprentissage. Connaître l'essence de Surat al-Fatiha, d'une manière résumée. Et même de les résumer de ce que les savants disent. Par exemple, tu prends Tafsir Sa'di et tu fais un résumé de ce que tu vas retenir et qui va rester dans ta tête tout le temps quand tu lis le Fatiha. Et tu lis doucement. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est comme ça que le Nabi Aslam lisait. Il lisait doucement, il s'arrêtait sur chaque verset. Ça aide à avoir la concentration. Donc, Salat est le repos de l'âme du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'il disait, « Arihna ya bihal, biha ya bilal. » Contrairement à celui qui n'est pas arrivé à ce degré de l'amour de salat. Al-Ghafil, l'insouciant. Al-Mu'rid, celui qui se détourne de son Seigneur. Le distrait, qui n'a pas de part dans la concentration. Pour celui-là, salat, elle est lourde. Elle est difficile. Elle est longue. Idha qam, ka'annahu 'ala al-jamr. Quand il commence sa salat, comme s'il a des braises de feu en dessous des talons. Il ne trouve aucun repos dans la salat. Au contraire, il ne trouve que la gêne. Il est perturbé, troublé, pressé de la terminer. C'est pour ça qu'il fait salam des fois, même avant l'imam. L'imam à peine, il peut dire « As, wa safi, il a fait salam et il est parti. » Il est pressé de terminer cette salat comme s'il sort d'un calvaire. Il sort d'une épreuve. Le mu'min, c'est l'opposé, c'est l'inverse. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla, quand il a décrit le munafiqin, il a dit « Wa idha qamu ila salati, qamu kusala » Quand ils se lèvent pour l'accomplissement de la salat, ils sont pleins de paresse et de fainéantisme. Et le fait de trouver ces sens-là en toi ne veut pas dire que tu es un munafiq. Lakin, c'est des efforts qu'on doit faire. Jusqu'à aimer la salat. Jusqu'à prendre plaisir dans une salat. Et savourer une salat. L'imam Soufiane Thawri dit qu'il a mis plus d'une dizaine d'années pour arriver à ça. Alors, combien nous on doit mettre ? Wallah al-musta'an. Lakin, tu dois savoir à quel degré tu dois arriver dans ta salat. Les élèves de l'imam Ibn al-Qayyim, comme dit de lui Ibn Kathir, il dit qu'il n'a jamais vu un homme faire la salat comme Ibn al-Qayyim. Bien évidemment, c'est cet homme-là qui nous parle de salat. Et malgré cela, lui, il dit de lui-même, il dit qu'il n'a jamais connu ces sens-là. Mais c'est juste ce qu'il rapporte de l'ulama. Lakin Ibn Kathir, quand il le décrit dans la salat, il dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un faire la salat comme lui. Une dévotion, une concentration, rahimahullah ta'ala. Il dit, cet homme, il est comme s'il a des braises de feu sous les pieds. Il est pressé de terminer cette salat et de la quitter. Et la salat qu'il aime le plus, c'est la salat très rapide. Et l'imam, son imam préféré, c'est l'imam, dans la salat duquel il n'y a pas de concentration ni de khushu. Il aime l'imam qui termine la salat rapidement. C'est pour ça, dès qu'il voit un imam qui met un petit peu plus de temps, tout en restant dans la sunna du prophète, car le critère ici, c'est le Nabi. La référence, je voulais dire, la référence, c'est le Nabi. Salat al-dhuhr, en moins de 10 minutes, mushkil. Normalement, une salat à basse voix, de 4 unités, normalement, elle doit durer 10 minutes. Hada, c'est un juste milieu. Amma, de la terminer en 5 minutes ou là en 4 minutes, Ada, en général, il ne sait même pas ce qu'il dit dans sa salat. Et pourquoi il aime la salat rapide, la salat qui se termine très rapidement? Car il ne trouve pas le repos dans la salat. Et dès qu'il termine, lui-même, tu vas le voir, il s'assoit sur une table dans les mosquées, surtout en France où il y a la cuisine, atay, wadakshi, il s'assoit autour de la table à boire atay, il reste 2 heures. Là, il trouve le repos de l'âme. Mais salat, non. Donc ça, c'est des maladies desquelles on doit se soigner. Et des choses sur lesquelles on doit s'habituer. Et ça vient avec l'apprentissage. Et avec l'ilm. Et avec la mise en pratique de la science. Et... pour terminer, il a dit وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي تَقَرُّ بِهَا الْعَيْنُ وَيَسْتَرِيحُ بِهَا الْقَلْبُ هِيَ الَّتِي تَجْمَعُ سِتَّةَ مَشَاهِدٍ. Et ce que tu dois savoir, que la salat avec yani, qui est la prunelle des yeux et avec laquelle le cœur retrouve le repos et la quiétude et la sérénité, c'est la salat qui regroupe 6 points. C'est ce qu'il va nous citer. Et bien, il est là qu'on espère qu'il sera une cause pour qu'on arrive à cette salat de concentration et de dévotion. C'est la salat qui regroupe ces 6 points qu'il va mentionner. Le premier, c'est la sincérité. Il va le détailler. Le deuxième, c'est la véracité. Le troisième, c'est le suivi du prophète, alayhi sallam. Le quatrième, c'est la bienfaisance dans la salat. Le cinquième, c'est d'observer les faveurs d'Allah. Et le sixième et dernier, c'est de constater notre négligence. C'est pour ça que nous terminons salat. Et après, on dit Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ça, ça ne doit pas être uniquement des phrases que tu répètes. Mais tu dois méditer sur ce que tu dis. Pourquoi tu demandes à Allah le pardon après avoir fait une salat, une des adorations qu'Allah aime le plus? C'est pour ces sens-là que nous allons voir, Inch'Allah ta'ala, dans notre prochaine rencontre. Et avec ça, il aura terminé cette risala très bénéfique et très profitable. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.